Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, toujours au Petit Air du Vieux-Noranda, dans le cadre du Festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue. On a passé 20 semaines ici, c'était bien cool. Et on rencontre l'humoriste, ben, en fait, il n'est pas humoriste, mais il se tient avec des humoristes. C'est surtout un réalisateur de podcast, Chuck Thompson, du Petit Bonheur. Salut les gars.
Salut Matt.
Comment ça va?
Salut Mathieu. Ça va bien?
Ça va bien?
Ça, je disais, on est en direct. Là, en ce moment, on est en direct, mais le monde qui nous écoute ne sont pas en direct. Mais si on se retrouve dans le MCU avec le multiverse puis Doctor Strange, ça devient compliqué. Mais
ouais, ça devient vraiment compliqué,
Matt. Faut que j'arrête d'écouter des films.
Ouais, non, c'est ça. Mais c'était un invité parfait pour jaser de films parce qu'on en a jasé du MCU avec,
ouais, ben c'est ça, avec Charles. C'est pour ça que je faisais le lien parce que ça a été une grosse partie de la discussion. Chuck Thompson, qui est un podcast au Québec et qui fait plein de podcasts là, pour
qui,
plein de
qui est
monde.
Professeur maintenant aussi ouais. De podcasts.
Fait qu'on a appris beaucoup. On a pris des notes. On s'est conforté aussi. Je pense qu'il nous a rassuré. Il nous a dit qu'on était pas pire.
Ouais.
Fait que c'est le fun. En même temps, c'est le fun de recevoir des collègues podcasters.
Un peu partout au Québec, hein, c'est, non, ouais. C'est sûr.
Belle discussion, vraiment.
J'ai eu la chance de travailler avec lui hier pour l'aider là, pour la diffusion des podcasts pour le FHE.
Ah, fait que là, lui, il a remplacé Yann à sous-écoute. Fait que toi, t'as remplacé Chuck.
Fait que je suis un peu Yann.
C'est ça. C'est comme si t'avais remplacé Yann à sous-écoute par la bande.
C'est un méchant chemin, mais c'est pas ça pareil.
un peu Yann. Excuse-moi, Yann.
ben, fait que vraiment, une belle discussion. Quand même.
Ouais,
vraiment,
ça a roulé.
Oui, c'était bon.
Il y a du stock. C'est vraiment un bon podcast. Ça paraît que c'est un professionnel. Fait que...
On remercie nos partenaires.
Oui, t'as quelle communication?
Médiaté Télé.
Et le Petit Air du Vieux-Noranda, qui sait pas qu'on est là, mais qui nous a accueillis comme des rois. Et puis, on va aussi remercier et surtout féliciter l'organisation du Festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue, ouais, Camille Dallaire, Félix Bédé-Fossé, toute son équipe, les bénévoles, tout ça. Bel événement qu'on a assisté à quelques spectacles. Puis c'était bien le fun. Je pense que c'est prometteur pour l'avenir.
Longue vie, oui, FHE.
Longue vie.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
Appropriation culturelle.
C'est du bon stock, on garde ça pour le podcast.
Non, ça...
Non, mais ça arrive. Ben, ça commence. Ça roule.
Ça roule, là? Ça roule pour vrai?
Ouais, ça
allô? Hey, allô, caméra. Bonjour.
On a commencé à enregistrer. Fait que, même si tu veux mettre ton casque d'écoute, t'es bien beau, t'es pas obligé.
Ouais, c'est gentil. Non, mais tu vois, je vais aller freestyle.
Yeah, man. C'est bon.
On y aller comme ça.
De toute façon, t'es habitué avec les pas de mic, tu sais comment ça marche?
Oui. C'est un excellent micro que je recommande à tous mes clients, d'ailleurs. Le pas de mic, ouais.
Ah ouais?
Ouais.
Parce que là, toi, tu fais du cours de podcasting en ce moment.
Oui, tout à fait. Je fais du cours de podcasting.
C'est ça qui a pris la place à Yann Thériault à l'École de l'humour?
C'était la place à Yann Thériault originalement. En fait, non, pas originalement. Originalement, c'était à Stéphane Pelichet qui faisait Petit Gamin, qui l'a passé à Yann Thériault, qui maintenant me l'a passé dans le fond. Fait que c'est, on passe la couronne
flambeau.
Dans le fond. le flambeau, exactement. Pardon, excusez-moi tout le monde qui vient de perdre 5 secondes de tout ça. Oui, donc c'est ça. Donc, je fais le cours de Yann Thériault et c'est un rêve. Là. Vraiment, c'est le fun. Je me sens vraiment pas comme un professeur. Je me sens vraiment comme quelqu'un qui fait juste donner sa passion pour le podcasting depuis tant d'années. Mm-hmm.
C'est fou à quel point l'École de l'humour, le podcast est rendu important pour les humoristes que là, on l'enseigne à l'école.
Mais tout à fait. C'est un médium qui a pris beaucoup d'ampleur depuis les, on disait, 3 dernières années. Mettons, avec la pandémie, ça s'est beaucoup ça a grandi. Bien évidemment, l'École nationale de l'humour, le cours de podcast existe depuis un bon nombre d'années, mais là, c'est plein tout le temps parce que c'est ça, les gens veulent connaître ce médium-là. T'sais, c'est un médium qui est accessible, contrairement à la télé ou à la radio. Puis, ils décident de faire, tu sais quoi, j'ai quelque chose à dire, je vais parler de ma passion, je vais parler de ce que j'aime, je vais parler de ce que je suis, tu sais.
C'est un cours du soir ou c'est un cours dans le cursus?
Cours du soir, exactement. Oui, tout à fait. Puis c'est un cours de 8 semaines. Cours de 8 semaines, 2 heures par semaine. Et puis, on passe à travers absolument tout du podcasting. Et puis, c'est un très beau cours.
Puis j'imagine que pour apprendre à faire du podcast, il faut en écouter aussi beaucoup.
Plus que tu écoutes de podcast, plus ça peut aider, ça va t'aider après ça dans ton propre podcast. Oui, tout à fait. C'est un excellent tour, un excellent truc. Je demande aux gens d'écouter les podcasts qu'ils aiment le plus, puis d'en écouter plein. Puis de se fueler, j'essaie de le dire en français, là, mais de s'inspirer de ça pour faire ça.
OK.
Ça serait cool. Ouais, vas-y. Moi, je me disais, tant qu'à avoir un professionnel du podcast ici, ce serait quoi les 3 clés du podcast selon toi là, pour le succès?
Ben, Ben, la première, ça va être la première, on va dire la constance. Je vais dire la constance, c'est de ne pas arrêter. De ne pas arrêter.
On est bon.
Vous êtes excellent.
Ça va pour ça.
Je regarde pas, quand je regarde, mettons, un nouveau podcast que je connais pas, par exemple, ou un ancien podcast, je regarde juste les dates de sortie. Puis ouais. Si je vois que, mettons, ça sort à tout, là, plus 7 jours, plus 7 jours, plus 7 jours, plus 7 jours, je fais OK, ils sont constants, c'est tight, ça va bien, ça roule bien. Ça, c'est une excellente première étape. La deuxième, ben, c'est de s'écouter pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, prendre des notes et appliquer les améliorations. Ce qui est beaucoup d'énergie et d'efforts, et beaucoup plus d'efforts et d'énergie que bien des gens sont prêts à faire.
Donc, accepter de se critiquer.
Ben oui, absolument. Hey, excuse-moi, tu sais, mon segment de 15 minutes là, sur les tweets, là, c'est pas plaisant. J'ai pas de fun. J'aurais pu en parler pendant une minute et demie, puis enchaîner sur ma superbe anecdote incroyable qui pourrait être un excellent extrait après ça pour faire pousser le podcast. Ça serait un bon truc. Sinon, écoute, j'ai un top 3, je l'avais pas vraiment en tête, mais sinon, ça serait d'en écouter, donc de s'inspirer des autres, de pas avoir peur d'aller voir ce que les autres font, puis de dire, écoute, ça, c'est un élément que je pourrais peut-être incorporer dans mon podcast, ça, c'est un élément que je pourrais peut-être m'en inspirer pour peut-être améliorer tel segment ou tel moment ou tel truc. Un autre... mon Dieu! Ah, j'en ai un en bonus, OK?
Yes.
Il y a beaucoup de monde qui disent, c'est quoi la partie que tu voudrais que t'aimes le moins faire dans le monde du podcasting, tu sais? Okay. Et c'est toute la partie après l'enregistrement, la partie ça, les gars, vous savez de quoi je parle? Donc, prendre le fichier, convertir en MP3, faire le thumbnail, mettre le thumbnail, rentrer les metadata, le faire sur le Podbean, le mettre sur l'hébergeur, en fait, le mettre sur le YouTube, faire la promotion. Ça, c'est autant de temps que d'enregistrer, de faire la préparation. Juste ce moment-là. C'est long.
Il est important.
Et les gens n'aiment pas faire ce moment. Les gens n'aiment pas ça.
Nous autres, on a quand même pogné notre twist puis juste faire un parallèle là-dessus. Tu sais, tout ce qui est technique, c'est moi qui m'en occupe, mais tout ce qui est comme, c'est Mathieu qui s'en occupe.
Oui.
Fait que tu sais, moi, je fais le montage, je l'upload.
Oui. Les liens.
Mathieu s'occupe de faire le reste.
Ça, c'est bon. Ça, c'est bon.
Comme ça, on se fichier drive avec tous nos épisodes. Je copie-colle les textes puis les liens, puis ça, tout dans les mêmes.
Ça, c'est pas long, tu sais. C'est pas long,
bien, le thumbnail à Canva, ça va bien, ça va vite.
Ben oui, avec le thumbnail, il y a des outils maintenant. Canva, c'est fabuleux, les gens à la maison. Utiliser Canva ou Canva Pro,
ça vaut à peine Canva Pro pour eux, pour 200$ par
exemple. Ouais, 200$, ça, t'as pas besoin de te casser la tête, tu peux avoir des beaux thumbnails. Mais tu sais, ces affaires comme... si vous prenez le temps pour écrire une description de podcast, c'est long.
Ah oui, parce que là...
Tu sais pas trop quoi écrire.
Tu l'as enregistré il y a 2 mois.
Tu te rappelles pas là, ce que c'est. Faut que tu te retapes le podcast au complet pour pouvoir faire les points qui sont importants. Donc, c'est du travail que beaucoup de gens sous-estiment. Et c'est du travail que je vais charger plus cher moi-même personnellement pour le faire je le fais avec des clients. Parce que moi non plus, j'aime pas faire ça. J'aime vraiment pas faire ça.
J'essaie d'être général, mais comme tu dis, si j'y allais sur des trucs un peu plus précis de ce qu'on a jasé, j'avoue que ça serait encore plus accrocheur. En même temps, Facebook, le monde, est-ce qu'ils lisent vraiment ou ils font juste cliquer sur l'image?
Exactement.
Parce que c'est aussi, tu sais, j'ai réalisé que là, dans le fond, quand on poste sur Facebook, c'est du nouveau public qu'on va chercher parce que ceux qui nous suivent déjà sont abonnés sur Spotify, sur Balado.
Eux autres, ça tombe sur leur téléphone déjà, fait qu'ils n'ont pas à se casser la tête.
YouTube, même chose. Fait que là, c'est vraiment pour acheter du nouveau monde, dans le fond, Facebook.
Mais en. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que Facebook, oui, est-ce que c'est important vraiment le titre de la description d'un podcast? Rendu là, peut-être qu'elle a juste une image accrocheuse, ça va mieux marcher qu'un texte, là, parce que les gens ne lisent plus rien.
Comme là, j'ai pas pris de photo de Julien avant qu'il parte.
Bon, je vous rappellerai pour prendre une photo de moi, comme ça.
Ouais, c'est ça. Faut faire la photo avant de partir. Ah, ça me fâche, puis ça arrive souvent. Mais c'est...
Ouais, sinon, vous avez une photo pro de moi, c'est pas grave.
Ouais, c'est à la limite. Mais j'aime ça avoir une photo dans le setup, justement, tu sais, où c'est qu'on est, puis ça met plus.
Vous avez vraiment un beau setup. Vous êtes dans le petit théâtre, quand même.
Ouais.
J'aurais pas pu croire qu'on enregistre des podcasts dans un petit théâtre. Moi, c'est la première fois que je fais ça, je capote.
C'est tellement cool. Off et fâcheux qu'il n'y a pas un chat. personne qui sait qu'on est ici.
Non, mais l'année prochaine, faut, je vais parler à Camille. Il faut inclure votre podcast, faut inclure l'appropriation culturelle dans l'offre des podcasts du FHE. Quitte à ce qu'on fasse un off FHE, comme tu dis, ce serait malade. Mais oui, qu'est-ce que tu allais dire?
Non, mais nous autres, dans notre vision aussi de podcast, on s'est dit, bon, on est en Abitibi, puis si on veut rejoindre du monde, il faut se rendre mobile. Fait qu'on essaie d'avoir le setup le plus mobile. Fait que, tu sais, on enregistre dans des Airbnb.
Guy Jodoin dans un Airbnb, c'est assez hot.
C'est hot, c'est très hot. Je veux dire, Guy Jodoin, c'est trippant.
C'est top le matin. Là.
Fait que là, quand on a des beaux petits décors, comme la salle, le sol du petit théâtre, je trouve ça, c'est vraiment cool.
On est gâtés.
Merci, Rosalie. Merci.
Merci, ouais. Merci pour les gens.
C'est ça, puis ils sont super ouverts. Ils sont beaucoup sur la culture numérique au petit théâtre. Fait que quand on leur a écrit, je pense que ça a été assez automatique pour eux autres. Là. Fait que c'est un très beau lieu.
Fait que vous faites un blitz d'enregistrement de podcast. Vous en enregistrez combien aujourd'hui?
4.
4. Ah, c'est du sport. C'est du sport. Ouais. À la fin du 4e, vous allez être fatigué.
Ouais. Ouais, mais on est rendu habitué. C'est pas mal. On est des horaires occupés toutes les trois. Okay. Fait que souvent, quand on fait des blitz d'enregistrement, on fait des blitz de 4. Fait qu'on se claire notre mois
mais
à l'avance.
Ce que je veux dire, c'est qu'au bout du 4e, vous allez être vidé. C'est ça. Il y a beaucoup de monde que j'en enregistre avec beaucoup de clients. On fait, oh, on s'en enregistre 4 d'une shot. Quand c'est des clients qui font comme qui en enregistrent pour la première fois 4 d'une shot, puis je fais, vous êtes sûr 4?
Ouais.
On va commencer avec 2 pour le fun.
Ouais, c'est
juste
ça, au début,
2,
c'est...
après ça, on est avec 3. Puis au bout de 3, la majorité du monde sont comme essoufflés, sont comme, on va s'en aller à 3.
La facilité de notre concept, c'est qu'on n'a pas de préparation, mais tu sais, si on avait des chroniques là, à faire, à écrire des trucs, on ne pourrait pas faire ça. Là.
T'as raison.
On pourrait vraiment.
T'as raison, si vous avez des chroniques, c'est de la préparation tellement à l'avance, c'est d'écrire chacune des chroniques pour chaque podcast, c'est long. Fait que, t'as raison.
Il y a un autre podcast en Abitibi qui s'appelle Qu'en pensez-vous? Puis eux sont très préparés, beaucoup de textes écrits, puis c'est très tight, des éditoriaux, c'est très sérieux, puis c'est chapeau bas. Mais tu sais, nous autres, on est rendu à 83 épisodes, mais eux autres, ils n'auraient pas pu faire 80 épisodes, je pense.
Parce que un par semaine, non. Ils n'auraient pas pu faire un par semaine comme ça.
C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se plaignent. Les pires moments d'histoire, par exemple, de Charles Beauchesne, je sais pas si
vous avez vu. Oui, j'adore ça.
C'est un podcast fantastique, mais tu sais, ils en font comme 6 par année, tu sais, puis là, les gens se plaignent. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus? Écoutez ce podcast-là. Juste comme tu as pris le temps d'écouter, il y a de la réal, il y a du bruitage, il y a tellement d'écriture.
Il y a de la recherche en fou.
Un épisode prend 2 mois à faire. Ouais,
c'est ça,
puis
c'est complet,
gratuit.
Là.
Voyons donc, Colin, tu vas laisser le temps. Le
monde c'est ça. Okay. C'est, puis j'écoute Ars Moriendi qui est un peu dans le même principe Simon Pledge. Puis lui, il en sort quand même pas mal, mais il prend un break quand même. Mais c'est normal, là, avec toute la recherche faite. Puis lui, il n'est pas tout seul. Là, il y a une équipe. Là.
Ouais.
Fait que s'il serait tout seul, il pourrait pas. Il pourrait vraiment pas. Parce que là, il y a des voix à cette heure, puis il y a du acting.
Oui,
puis,
oui, il demande à du monde de faire des voix pour lui, ça. Absolument. Puis, je veux dire, c'est tout à son honneur. Il met tellement de temps et de préparation. Il nous en avait fait un pour... moi, j'étais à un festival de podcast qui s'appelle Festipod.
Mm-hmm. Qu'on a écouté dans un spa.
Dans mon spa. Chez Benoît.
Vous avez écouté le Festipod dans mon spa, dans votre spa.
On l'a projeté sur le mur
dehors. On écoutait le Festipod dans le spa.
On écoutait Yann Thériault. Après, c'était, je me souviens pas c'était qui, là, mais...
Vous êtes merci les gars, mon Dieu. Je capote. Je peux imaginer. Puis on avait tellement de. Parce que, en tout cas, on le mettait en même temps en live avec les porte-lances, puis l'animation, tout ça, tout le long. Puis on voulait faire un long show, Facebook, une journée avant, on se rend compte qu'il peut juste streamer 8 heures. Fait qu'il faut le faire en 2 parties. Là, on a capoté un peu. Fait que l'année prochaine, ça va être YouTube. En fait, donc, ça va être cette année, en fait, on va faire une édition 2021, puis on va le faire sur YouTube parce que c'est 12 heures que tu peux streamer maximum.
Puis de toute façon, pour des longues affaires, YouTube, on dirait que, tu sais, Facebook, tu t'arrêtes pas pendant longtemps.
Non.
Mais YouTube, une fois que t'es rentré dans la plateforme, t'es rentré, tu restes.
Oui, tout à fait.
Il y a moins peut-être de views vite, là. Tu montes pas à 1000 views de suite, mais ceux qui sont là pour vrai, je pense.
Ben, ça s'écoute tellement mieux, puis je trouve que c'est une plateforme tellement mieux pour le streaming à la base, là. Puis je veux dire, c'est pour ça que même Twitch, puis je regarde beaucoup d'experts Twitch qui parlent de Twitch, puis disent, ça s'en va tranquillement. Mais YouTube va peut-être prendre la place de Twitch tranquillement, parce qu'ils ont tellement plus d'outils pour aider la facilité de recherche des gens. Tout ça. Fait que...
C'est parce que ça fait longtemps que YouTube existe. Là.
Oui.
Puis ils ont évolué.
Oui.
Alors que les autres plateformes.
Il y a encore des problèmes. Là,
avec la monétisation, par exemple.
Monétisation,
c'est pas super.
4000 heures, là, c'est top.
Tu peux-tu faire comme avec Twitch les donations sur YouTube?
Oui.
Tu peux faire ça.
Mais même ça, c'est moins intuitif. Disons que Twitch a vraiment fait un beau service de bits et de. On embarque dans le projet rapidement. dans YouTube, c'est, on le voit là, les donations, mais c'est moins ça. Ils sont en train de s'améliorer, mais ça prend du temps. Donc,
les étoiles Facebook.
Les
aussi,
étoiles Facebook,
peu,
là, les abonnements Facebook. Tu sais que YouTube, il y a des bombes, des pauvres, des cons, mais je pense que YouTube, tranquillement, va prendre de plus en plus de place dans la game du streaming.
Ah oui, c'est sûr, parce que Twitch, en même temps, il y a eu tellement d'erreurs de modération, il y a tellement de... C'est tellement pas égal où quelqu'un, une fille va être dans son spa, puis ça va pas... Puis elle va être juste en costume de bain.
Mais c'est fini, là, c'est banni.
Oui, là, elle a été bannie, là, c'est amourante.
Amourante.
Il n'y avait pas juste elle, il y en avait plein.
Mais il y en avait plein, mais c'est ça, il n'était pas banni, puis là, il y avait quelqu'un qui, n'importe qui, dans un stream puis mettait de la musique qui n'a pas rapport puis il se faisait bannir.
Metallica qui s'est fait censurer?
Ouais.
Metallica qui s'est fait copyright claim, c'est tout.
Oui, évidemment. Ouais, parce que Metallica sont toujours de l'avant pour ce qui est des droits d'auteur. C'est les premiers. Ça a été les premiers avec Napster puis maintenant ils sont encore là
c'est vrai,
en train de défendre les droits d'auteur. Mais avec raison, je veux dire, les musiciens aussi doivent défendre les droits, tout ça. Mais c'est juste...
Il y a beaucoup de DJ sur Twitch d'ailleurs.
Il y en a beaucoup, oui.
Quelques autres, ils peuvent le faire en direct, mais ils peuvent pas garder leur truc pre-tape
la rediffusion.
C'est que ça se peut très, très bien...
Se faire flaguer tout de suite.
Se faire flaguer. C'est pour ça que les cover bands, ça marche bien. Ouais. C'est pas la version originale. Comment ça s'appelle? Rafi, il y a un groupe dans le garage.
L'Endemain de veille aussi qui fait ça.
Ou L'Endemain de veille aussi qui font ça. Il y a Pépé.
Évidemment, mais...
Ils ont trouvé un modèle pour faire de l'argent puis faire de la musique sur Twitch. Donc, vivre de leur métier puis streamer en direct. Puis, je veux dire, on va prendre des donations en échange, on va faire des demandes musicales. Puis moi, c'est surtout, en fait, Rafi, c'est un groupe. Les quatre sont super bien setupés. C'est magnifique.
Ils ont préparé, ils font
3 heures à tous les samedis, dimanches. Ils font de l'argent. Ils sont commandités. Le gouvernement les back. Le gouvernement a mis des fonds dedans, mais il y a aussi des commanditaires. Puis il y a aussi les donations. Fait que, tu sais, les autres sont corrects, là. Fait que je capote. Ils ont vraiment trouvé un modèle qui marchait.
Parce que les autres, ils étaient toujours, justement, au bar chansonnier de Montréal, le plus connu, là.
Bar à Jojo.
Non, c'est dans le Vieux-Montréal, je pense, mais...
les Deux Pierrots.
Deux Pierrots qui a fermé, d'ailleurs.
Qui a fermé récemment, effectivement.
Fait, là, pendant la pandémie, il fallait qu'ils trouvent une autre façon de...
Tout à fait. Puis ils ont trouvé un super, puis ils sont tight, solides. Fait que bravo à eux. Ouais.
Est-ce que toi, dans le fond, avec t'as ton podcast qui est Les Petits Bonheurs, qui est ton podcast principal?
Le Petit Bonheur, oui, effectivement.
Quand tu t'es vu avec ça, t'es-tu capable de vivre?
Non, pas du tout. Je suis pas un humoriste. J'ai pas beaucoup de traction sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je suis pas le gars le plus connu. Je commence à gagner un peu de popularité avec le temps, mais c'est encore loin de. Tu sais, il y a des techs qui sont connus, comme mettons, Yann, comme Yann s'est créé une tribune, mais ça fait.
Des années.
10 ans, 15 ans.
Il fait partie du Big Four du podcast au Québec.
Genre avec Talbot, Benoît Mercier, T'avais
toute la gang du crachoir, puis tout
crachoir.
Ça.
Commission des geekers, je sais pas si vous vous rappelez ce vieux podcast-là, mais ils étaient vraiment là au début.
Quelque chose, là, mais...
Il y avait un des animateurs, Trois bières sont là un petit peu plus à l'avant. D'ailleurs, ils ont fait célébrer leur 500e hier.
C'est
quand même fou, là. Vraiment, puis bravo, parce que c'est une inspiration. Je suis allé les voir après, puis je leur ai dit à quel point c'était une inspiration pour moi. Moi, avant de faire du podcast, je travaillais dans le domaine de la sécurité et supervision. Donc, j'étais superviseur, puis je faisais de la sécurité pour dans le temps, un Jack Astors, qui est une sud de restaurant, dans le fond, un peu partout en banlieue de Montréal, tout ça. Et j'écoutais trois bières à leur début, puis j'étais comme, Colin, moi j'avais un diplôme en radio, j'avais rien fait avec, puis je les écoutais, puis j'étais comme, ah, je peux tellement faire mieux. Non, c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai.
On va recevoir Pierre-Luc Racine.
On reçoit Pierre-Luc Racine juste après.
Régler nos comptes.
C'est pas du tout ça, en fait. C'est que c'était des réelles inspirations pour moi parce que j'étais comme, ils font ce que je veux faire, dans le fond.
Ouais.
Parce que à force d'écouter des podcasts, quand je me suis bien écouté beaucoup de podcasts, la radio me tentait de moins en moins parce qu'il y avait beaucoup de barèmes. Il y avait beaucoup de... Écoute, il faut que tu fasses jouer cette tune-là, puis la publicité, puis tout. Puis là, j'entends juste comme Pierre-Luc, puis Yannick, puis dans ce temps, c'était Julie, c'était pas Gabriel. Puis j'étais comme, Colin, je veux faire ça, tu sais. Puis finalement, tu sais, j'ai commencé à faire mes petites affaires. J'étais allé chercher des consoles, des trucs, des vieux micros dans les pawn shops. Puis j'ai commencé tranquillement à apprendre sur le médium, tu sais. Puis Là, j'en ai fait un métier. Maintenant, j'en vis depuis 3 ans, puis c'est le plus beau métier de la Terre. Je veux dire, on me paye pour réaliser du podcasting. C'est extraordinaire. C'est la meilleure job au monde. Puis tous les jours, je suis reconnaissant. Je ne suis pas croyant ou rien de ça, mais je suis reconnaissant de ma vie là, parce que c'est une job extraordinaire. Il n'y a rien à dire. T'sais, on paye pour aller faire du podcast.
Tes clients, c'est-tu des humoristes ou c'est des gens des entreprises privées?
Les deux.
Ouais, okay.
Les deux. J'ai commencé avec des humoristes, beaucoup, parce que j'ai vraiment, principalement, je baigne dans ce milieu-là. Mais après ça, j'ai commencé à approcher des entreprises, tout ça. Ma blonde, en parallèle, m'a fait rencontrer des gens. Moi, j'ai rencontré un entrepreneur qui m'a fait connaître d'autres entrepreneurs aussi, parce qu'évidemment, les entrepreneurs, pour eux autres, puis dans le milieu corporatif, le podcast, c'est encore nouveau. Les gars, si vous voulez faire une carrière en podcasting, approchez les grosses compagnies, sont intéressés et ils ont de l'argent.
Ils savent pas comment ça marche.
Ils savent pas comment ça marche.
Il y a de la mine en esti, boys.
C'est d'aller chercher quelqu'un dans les ressources humaines, par exemple, d'une compagnie qui veut faire un podcast pour son entreprise et qui veut faire shiner leur entreprise, parler de leurs produits et faire connaître leur produit à travers les internets. Il y en a énormément. Beaucoup présentement qui cherchent des techs, des gens qui vont juste s'occuper d'apporter les micros, faire les enregistrements, faire la publication, faire toute la paperasse qu'eux autres veulent pas. Eux autres veulent juste avoir un micro avec eux pendant une heure par semaine. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent shiner pendant une heure avec un micro. Mm-hmm. Toi, t'es payé, bro. Juste t'occuper de faire tout ça, c'est fouleux.
Pourquoi qu'on n'a jamais pensé à ça?
Ben, ça s'en vient, on est en train de... On s'est fondé en SENC il y a 2 mois.
Je me fais dire par tellement de monde, en Abitibi, là, depuis que je suis arrivé, qu'il y a des entreprises qui veulent partir leur podcast par des gens d'un peu partout. Là, c'est le temps d'aller les chercher, les boys, parce que pour vrai, vous avez un marché grand ouvert. Il n'y a pas beaucoup là, des gens comme vous présentement qui font des podcasts en Abitibi. C'est le temps d'aller chercher le monde.
Il y en a de plus en plus.
Il y en a de plus en plus. C'est le temps de vous démarquer, c'est le temps d'aller chercher les compagnies.
On avait l'impression qu'on était en retard, ça que Pierre-Marc
disait. Oui, c'est la faute là, c'est que je dis souvent, c'est que quand on a parti le podcast, la podcast game au Québec était bien établie, puis je pensais que j'étais en retard, puis on était en avance en Abitibi, dans le sens qu'il y en avait 2-3, puis là, il y en a de plus en plus qui pop. Nous autres, ça fait déjà 2 ans qu'on roule, puis là, c'est ça, il y a une structure déjà. Vingtaine qui est apparue dans la dernière année. Là.
Exactement, parce que la pandémie est arrivée, mais là, qu'est-ce qui va se passer? La pandémie va arrêter.
Ouais.
Ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont arrêter. Ce qui veut dire que là-dedans, il va en avoir, le filtre va se faire naturellement. Il y a des gens qui vont juste abandonner parce qu'ils vont reprendre leur job normal, quoi que ce soit. Si vous voulez en faire professionnellement, ben vous avez le champ libre.
Des offres.
Vraiment.
Parce que c'est vrai que c'est ça aussi, tu sais, justement, avec la petite prod, on fait des contrats quand même, soit d'audio, de captation vidéo, des petits films, des choses comme ça. On est des improvisateurs aussi, fait qu'on se sert de ces outils-là. Mais avec les caméras, avec les outils qu'on a, on est capable d'aller chercher, de créer du contenu pour tout ce beau monde. Là.
Définitivement, puis pas juste du podcast, là. Des capsules, des vidéos promotionnelles, des vidéos d'entreprise. Je veux dire, il y a de l'argent. C'est juste qu'il faut savoir où la trouver.
Parce que l'autre façon de se financer, c'est les fameux Patreons. Mais ça, lancer un Patreon dans l'air quand t'as pas de following, ça fonctionne pas.
C'est tellement drôle parce que c'est ça. Moi, j'en fais depuis comme 7-8 ans. Je commence à avoir une bonne réputation dans le domaine du podcasting. Et je sais que si je lance un Patreon demain pour mon petit bonheur, qui est mon podcast quotidien...
Ça lève pas.
Ça lèvera pas, pareil.
Ouais.
Ça lèvera pas. J'ai pas de traction. J'ai pas de traction sur Instagram, j'ai pas de traction sur Facebook, j'ai pas de traction, j'ai pas de TikTok.
Non, c'est
je veux dire, c'est plate à dire, mais tu sais, il y a beaucoup de podcasts, beaucoup. C'est pas parce qu'un podcast a 20 000, 30 000 vues sur YouTube à chaque semaine que c'est le meilleur. Mais,
il est gratuit,
le monde écoute, mais c'est souvent parce que la personne qui l'anime a une certaine traction déjà sur les réseaux sociaux. C'est simple comme ça. Puis je veux dire, en télé, c'est pas différent. Là. Ce que je me fais dire souvent par des humoristes maintenant, c'est que les producteurs vont chercher non seulement des artistes, des talents qui sont bons pour faire le travail pour l'émission en soi, mais aussi s'ils ont une traction sur les réseaux sociaux. Oui, c'est rendu clair. Un prérequis.
Arnaud Soli, par exemple, c'est rendu commodité pour aller amener à la télé parce qu'il est partout, ça. C'est rendu qu'il commande des trucs sur Facebook puis ça apparaît dans mon feed.
Arnaud
Soli, il commande des trucs. Ça pop partout.
Exactement. Là, les producteurs veulent ça, veulent capitaliser là-dessus. Fait que là, tu sais, c'est ta valeur, c'est plus juste ta valeur en tant que comédien ou humoriste, c'est ta valeur en tant qu'influenceur. Le terme est peut-être pas le plus flatteur pour ces gens-là. Les gens n'aiment pas tellement ça, se faire appeler des influenceurs, mais c'est ça, tu sais.
C'est parce que le spectre des influenceurs est vraiment large entre la personne qui veut juste quêter un repas puis parler de ton repas puis le mettre sur Instagram, ou des gens comme, mettons, plus Arnaud Soli, qui, bon, ils font de l'humour puis ils
influencent, là,
tu sais, ça reste un influenceur pareil, mais je pense qu'on voit plus le côté négatif, là, de l'influenceur.
Oui, non, ça c'est sûr. Mais ça serait intéressant de recevoir que s'il passe et de passage en Abitibi, que vous puissiez le recevoir, parce que je suis sûr qu'il va pouvoir vous en parler de cette l'espèce de behind the scene, en arrière, là, de... t'es un producteur, est-ce que ton influence sur les réseaux sociaux, c'est pour telle ou telle ou telle émission, c'est important? Puis il y a des producteurs que c'est aussi, oui, il faut que oui, tu aies 100 000 abonnés sur YouTube, sur Instagram. C'est important. C'est rendu une nouvelle... C'est une nouvelle ère.
Parce qu'avant ça, il n'y avait pas ça. Il pouvait, c'était des producteurs qui choisissaient qui allait être la prochaine vedette, mais là, maintenant, c'est
puis les calculs étaient plus flous aussi.
C'est le public.
Parce que, tu sais, à l'époque, les machines que Mike Ward parle souvent dans son podcast, là, que les gens écoutaient la télé, puis comme...
Ouais, c'est ça, les transpondeurs.
Maintenant, tu as des chiffres directement sur Internet que tu peux aller consulter.
Est-ce que c'est fiable? Tu sais, on le disait, Facebook, le reach, YouTube, je trouve qu'il est plus représentatif.
Avec le temps, il n'y avait pas le choix à cause des annonceurs. Mais YouTube, ça fait plus longtemps que c'est un diffuseur.
C'est ça.
Que Facebook.
Puis après ça, le chiffre, dans le fond, tu peux l'interpréter comme tu veux, là, mais tu sais, il est haut, celui qui est plus big, il va être juste plus haut.
Mais le déflateur, le 8000 de Facebook, là.
le début de Facebook, par exemple, c'était intéressant parce que tu avais 100% de reach.
C'est ça.
Il n'y avait pas de tri, Puis tu sais, mettons pour les pages aussi, pour les posts, puis des trucs comme ça, il n'y avait pas un filtrage où tu voyais juste 1% de ce qui se passe. Là, non, c'est
ça. Mais ça a changé beaucoup. Tu sais, même ceux qui avaient de l'influence sur YouTube puis Facebook, les real William Johnson de ce monde et les Smosh de ce monde.
Les Smosh sont encore en vie.
C'est parce qu'ils ont décidé de grandir. Ils ont décidé de capter. Tu sais, Ray William Johnson, il a arrêté à un moment donné.
Puis là, il vient de revenir, mais c'est plus pareil.
Même genre de contenu. C'est un peu plus douche comme contenu. D'ailleurs, je me demande un peu qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il s'en va. Puis t'as des Philippe DeFranco qui font du contenu depuis un bon bout.
Philippe, il rendait avec un genre de podcast pas mal plus animé, puis très psychologique aussi. Il rentre dans des questions très personnelles avec des personnalités YouTube.
Mais lui, il a décidé de faire un réseau. En fait, c'est plus juste un podcast, c'est des vidéos sur le site. C'est un réseau d'informations, littéralement, que lui voulait partir de son côté. Mm-hmm. Tu sais, comme The Young Turks, puis ces réseaux sur YouTube-là. Donc là, il est rendu plus loin. Mais
le TED Link avec Mythical aussi qui...
Oui, tout à fait. Mais eux autres ça fait un bout qu'ils roulent leur boss, puis ça marche, là, tu sais.
C'est eux qui ont acheté Smosh, d'ailleurs.
C'est eux qui ont acheté Smosh, je savais pas.
Oui, Smosh est en train de mourir parce qu'il y avait un mauvais partenaire. Mythical les a rachetés. Fait que là, maintenant, Smosh sont sur la gouverne de Rhett & Link, qui dirige d'autres choses, qui ont acheté un gros studio à Burbank, en Californie, là, puis qui mettent plein de YouTubers qui sont capables d'aller sauver pour les laisser faire leurs affaires.
C'est ça. Puis les conglomérats aussi, puis pas juste de YouTubers, de Twitchers, genre 100 Thieves, qui est comme une espèce de grosse boîte de Twitcher, qui viennent ramasser des donations, puis tout, puis ils jouent, puis tout. Ils ont leur bureau à eux. Puis, eux autres, ils font du contenu gaming, mais poussé, là, dans le fond, avec des célébrités Twitcher. T'sais, on est rendu là, dans le fond. C'est vraiment intéressant. Mais c'est ça. Pour revenir, en fait, au point que je disais, c'est que il y a beaucoup d'argent ici, en Abitibi, vous allez devenir des ambassadeurs du podcast si vous commencez à en faire pour l'autre, puis faire passer le mot tranquillement, parce que ça prend pas de temps, là, que vous allez être référé par tout le monde.
C'est là
que
ça commence. Je pense que c'est un peu un objectif. En même temps, on a des jobs aussi dans temps plein. Fait que c'est ça qui... Maintenant, il faut se faire des choix. Là, mais oui, c'est clair que... ça serait cool là, que ça grossisse tout ça.
Ah, mais c'est sûr. Puis tu sais, on a toujours le projet d'avoir un studio fixe aussi. Puis quand on aura un studio fixe, ça va être aussi plus simple là, de pouvoir demander. Ben tu sais, je sais pas, inviter les gens aussi là, tu sais, dans le fond, de produire du podcast. Hein, c'est sûr que ça. C'est une vision, mais c'est...
C'est sûr,
Vous voyez ça comme gros ou...
Gros. C'est pas gros, c'est un investissement.
C'est beaucoup d'argent.
C'est un investissement, mais c'est en argent puis en temps. Puis tu sais, on a chacun nos blondes. Ben, pas Mathieu, excuse-moi Mathieu, mais on a chacun nos blondes aussi, puis Pierre-Marc a un enfant. Fait que c'est juste de tout mettre ça en perspective.
C'est vrai que c'est...
À un moment donné, il faut faire des choix, parce que des projets, on a. Là, cet été, là, c'est l'enfer. Là.
On a des propositions, ça.
On a plein de projets, ça, c'est super trippant, mais à un moment donné...
Il n'y a pas une semaine où c'est qu'on n'a pas un tournage, la télé, puis ça, ça va vite. Là, c'est ça qui est le fun. Ben, c'est ça, puis c'est ça l'affaire. Tu dis, il y a des entreprises qui ont des besoins, puis ça se peut. Mais là, jusqu'à en ce moment, on a vraiment pas mal de stock pour s'amuser. C'est déjà cool, mais on dit pas non à rien. Mais
non, on dit non à rien.
On dit non, là, tu sais. Fait que
c'est bon, c'est bon. Ben, vous apprenez, vous autres, continuez à faire du tournage, acquérir l'expérience, avoir toutes les situations possibles, tourner dans toutes les situations possibles, toutes les sortes de trucs possibles. Et c'est la meilleure des choses, tu sais. Moi, j'ai hâte d'enregistrer un podcast sur une barque. Tu sais, genre, des espèces de set-up de fou qu'on ne voit pas, on voit pas venir, tu sais, comme j'ai goût. Parce que j'aime beaucoup enregistrer dehors à la base.
Mais déjà, t'as fait la terrasse à Mike Ward. C'était un beau challenge, je pense, là.
C'était malade. Vraiment, je me pinçais tout le long. Puis ça a été la première fois que j'ai réalisé sous-écoute. Ouais. Ça a été dehors, dans sa cour, chez lui, avec ses chiens, là, tu sais. C'était malade, là. Ouais. Avec François Bellefille qui me lichait le mollet pendant que j'étais en train de brancher des XLR, là. Tu sais, c'était Bellefille qui est un peu aveugle, qui me liche l'arrière de. C'est parfait. J'adorais ça. C'était une expérience. Je vous jure, je me pince souvent quand je fais ma job. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Genre, je suis très reconnaissant de ma job, puis je me pince quand j'enregistre. Je le faisais, mettons, avec Martin Pirizzolo quand on faisait Les Vieux Garçons, qui était son podcast de relations. Et là, je l'ai fait pendant ça. Et puis quand Michel, après ça, m'a rappelé pour me dire « Écoute, Yann va prendre des vacances », j'ai dit « Oui ». Je pense que Michel m'a dit « Écoute... » J'ai dit « Oui ». Tu sais, je savais même pas. J'étais excité, là. Et là, tu sais, je me dis...
Mais non, c'est sûr.
Je l'ai fait chez Mike, mais de le faire au bordel, l'ultime. Tu sais, c'est le « Tout le monde en parle », les humoristes. Ouais, c'est le podcast francophone d'humour le plus écouté au monde. C'est pas rien, là. Fait que... je suis extrêmement reconnaissant. Je peux mourir. Je vous le dis, je peux mourir. Là,
le bordel versus la cour à Mike, le défi technique est pas le même. La cour à Mike, c'est l'éclairage que t'as aucun contrôle dessus ou presque. Les bruits environnants.
La température. Parce que avant un des podcasts, en soi, il a commencé à pleuvoir. Et là, il y a Mike qui rentre chez lui parce que pendant que je fais l'installation, il n'a pas besoin d'être là. Fait que je suis tout seul. Puis là, il se met soudainement, il fait beau, il commence à pleuvoir. Il y a tout du stock électronique partout, là, sur une table étalée. Fait que là, j'ai commencé à rusher, faire rentrer l'équipement, tu sais, puis il pleuvait. Et là, il a arrêté de pleuvoir, comme miraculeusement, j'étais capable de pouvoir tout ressortir, on était capable d'enregistrer à l'heure. Donc, ça a été vraiment un gros défi. Fait que oui, effectivement, les défis de l'extérieur, c'est la pluie, tu sais. Mm-hmm. Fait que quand on enregistre du podcast dehors, si vous pouvez vous le permettre, un petit abri tempo, ça peut aider.
Ça sauve pas du stress.
Juste se placer en dessous, question de...
Mais pendant, quand on a fait des enregistrements pendant la fin de pandémie, mais on était sur la terrasse à Benoît, fait que là, il faisait beau, on était chanceux, mais tu sais, la vérité, c'est que c'est super cool là, d'avoir faire ça en extérieur.
T'sais. C'est le meilleur.
Les invités sont pas comme, je vais m'enfermer dans un sous-sol pendant 2 heures, tu sais, non?
T'sais, et puis en plus, d'autres après ça, que le décor en arrière, c'est d'un gros lac.
C'est merveilleux. D'avoir un décor comme celui-là, tu sais, c'est y a rien qui bat ça. Y a pas une salle. Y a comment il s'appelle, Marc-Antoine Montier, qui fait son podcast Pas de temps à perdre et qui est plus une entrevue style téléweb, mais show, aussi là, qui en fait un podcast. D'ailleurs, il a été nominé aux Olivier pour le podcast en soi. Puis il enregistre directement une salle de spectacle, un peu comme ici, mais lui, il enregistre directement sur scène. À Valleyfield, exactement. Face, dans le fond, au siège.
OK.
Puis c'est cool. Tellement beau là, comme endroit, c'est tellement cool et que c'est fabuleux. Il y a des endroits intérieurs qui sont beaux comme ça, des salles de spectacle avec des sièges vides en fond, comme c'est extraordinaire. Mais il n'y a rien qui bat un lac, il n'y a rien qui bat un paysage naturel.
Avec le show de TV, là, c'est ça que j'ai remarqué, on fait des entrevues justement dans différents lieux, puis à chaque fois, c'est toujours, on est allé au Témis en plus, tu sais, fait que là, il y a toujours soit un lac, soit genre on est dessus d'une falaise, c'est toujours un champ aussi d'agriculteurs à perte de vue. C'est fabuleux.
Ah, c'est cool. Ça, dans le champ, c'était cool. On est allé en petit tracteur dans le milieu du champ, on a mis 4 chaises, on a mis les caméras, on a enregistré ça là, puis
ça devait être hot.
C'est juste un très grand champ. en verre, là. Un ça, quatre roues qui passe.
Ce show télé-là, qui a, tu sais, oui, il y a un peu de podcasting là-dedans, là, fait que c'est parce, mais là, c'est plus de la télé, là, mais, parce qu'on a des contraintes de télé, mais ça va nous amener à un autre niveau, je pense.
Ça, là, va pousser la, ça va pousser le médium, oui.
Mais ouais, c'est ça. Ben, d'ailleurs, c'est ça. Là, ce gear-là, on ne l'aurait pas si. Ben, le téléphone à Ben, je pense qu'il l'aurait pareil.
Oui, je l'aurais pareil.
Je pense qu'il y aurait un téléphone.
Non, j'aurais mon téléphone.
Il l'aurait pas.
Ben, il y a
une idée. Il téléphone. Depuis qu'il sait qu'il peut se filmer avec, fait comme, ah ouais, je vais en acheter d'autres.
Tu devrais voir sa chambre. C'est troublant.
Puis, petit bonheur, vous êtes rendu à combien d'épisodes?
1070, c'est à tous les jours, lundi au vendredi, ouais.
D'abord. Ouais. Que vous pluguez toujours, ben là, parce que là, Vanessa est rendue à Amos,
oui.
Camille à Rouen.
Oui.
Puis il y a qui d'autre là-dedans? C'est votre...
ben, on est trois,
c'est ça. Oui,
tout à fait. Ben, principalement trois, mais il y a des collaborateurs qui roulent, ouais, des gars sincères, okay. Par exemple, qui vont venir de temps en temps, on va voir Julien Chidiac, on va voir du monde qui vient de temps en temps pour collaborer. Fait que,
oui. Tu continues en Zoom ou.
Continue en Zoom, mais là, tranquillement, moi, j'ai un studio chez moi que je suis en train de construire, donc je vais pouvoir accueillir les gens. Okay. Pour Vanessa et Camille, ça va être un petit peu plus difficile, disons. Ouais, fait ouais. qu'on va aller. Je vais aller chercher d'autres collaborateurs, collaboratrices quand je peux pas les avoir avec moi. Évidemment, c'est elle que j'aime avoir comme collaboratrice en premier, mais évidemment, pour si ça se passe à Montréal puis elles peuvent pas, ben on va trouver autrement pour ça.
Parce que tu fais du podcast concept. Dans le fond, les petits bonheurs, c'est une discussion courte.
Oui, des petites questions courtes. En fait, du lundi au vendredi, on pose deux questions par jour. Et puis, l'émission en soi, le lundi au vendredi, dure 20 minutes. Donc, c'est cinq petites émissions de 20 minutes où est-ce qu'on parle d'un sujet pendant 10 minutes et l'autre sujet pendant 10 minutes. Donc, ça fait 20 minutes.
Là, tu fais à tous les jours, mais que tu as combien de backlog, mettons? Tu n'enregistres pas une émission par jour.
Non, non, non. Mais on enregistre. Je m'amuse à dire qu'on enregistre à 3 h du matin avec l'invité à tous les jours. On fait un podcast pour vous. mais sinon, non, c'est un podcast qu'on enregistre en lot. Donc, les 5 épisodes consécutivement. Donc, on sauve beaucoup de temps comme ça.
Ouais, puis avec des 20 minutes, c'est quoi? Ça doit prendre une heure et demie, deux heures.
Juste
d'enregistrement, je parle pas de setup. Là.
Deux heures d'enregistrement environ, mais ça va souvent plus longtemps que ça. Et là, on a essayé une nouvelle formule parce que là, on est rendu vraiment loin. Là, fait qu'on, maintenant, on essaie un sujet par jour, donc 10 minutes. Donc, on essaie d'enregistrer en une heure. Et ça regarde bien pour qu'on fasse ça cet automne. Ouais, tout à fait. Donc, j'aime bien ça. J'aime bien ça.
Parce que là, c'est ça, on le disait, là, ça prend chaque épisode. Oui, c'est du temps X, mais tout le temps de préparation après.
Ouais.
Fait qu'un épisode par jour, là, tu ceintures ton. Même c'est 7 épisodes, non, pas par semaine? 5 épisodes.
5 épisodes.
Fait que, tu sais, c'est de la peau.
C'est du travail. C'est du travail. Mais ça marche. Puis ça marche. Puis je réussis à manier d'autres podcasts en même temps, parce que je travaille pour des clients. Donc, j'ai 5-6 autres podcasts que je dois manier en même temps. Donc, c'est de
faire. T'as pas eu l'impression que tu tassais le petit bonheur jamais, malgré tout?
Oui, un peu.
Ouais.
Ouais, non, vraiment. Puis, c'est qui? Dans le fond, c'est Jeff Provençal qui m'a dit il y a 2 ans, on était dans un party de Noël, puis ça m'avait vraiment marqué. Faut que j'y en parle, mais il m'a dit tu fais le podcast de tout le monde, mais tu fais pas le tien. Okay. Je disais, c'est vrai. Mm-hmm. C'est pas faux. Il dit, là, faudrait que tu capitalises un peu plus sur ce que toi, tu fais. T'sais. Puis je trouvais ça magnifique, ce qu'il avait dit. J'ai décidé depuis ce temps-là de commencer à travailler sur, je vais élargir mon offre, je veux parler moi dans ma tête. J'ai jamais vraiment beaucoup parlé de mes passions dans le petit bonheur. Ça fait 7 ans que je mets les autres de l'avant.
T'interview,
mais moi, je me suis pas jamais mis de l'avant. Fait que je veux parler de cinéma. Je connais beaucoup le cinéma, culture populaire, puis les jeux vidéo. Donc, je vais faire 2 podcasts parallèles.
Cool.
Petit bonheur. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient dans les prochains mois.
Ça va être mes petits bonheurs.
Mes petits bonheurs. Ça pourrait être
un concept.
Mes petits bonheurs. C'est vraiment moi qui va parler, puis qui connaît beaucoup, beaucoup sur le domaine du jeu vidéo, qui me renseigne énormément là-dessus, et aussi sur le domaine du cinéma, parce que je suis. J'aime beaucoup ces deux passions-là.
As-tu participé un peu avec Box Office?
Oui. Box Office. Non, j'ai pas participé à Box Office, mais en fait, non, excuse-moi, j'ai participé à un genre de film de l'année avec Dom Massy. On a parlé de nos films qu'on avait le plus hâte de voir en 2021. Mm-hmm. Mais non, j'ai pas fait Box Office encore. J'aimerais ça. Je vais demander à Julien puis à Dom de me têter une place là, pour un épisode.
Si c'était un pro du cinéma, parce que ces gars-là sont quand même assez.
Black Widow. C'est-tu Black Widow que t'as hâte de voir en 2021?
Non, c'est pas Black Widow, mais j'ai hâte de voir Black Widow.
Moi, je suis dans le MCU depuis le début de la pandémie, cet hiver, en fait. Là.
Ah, ça, c'était drôle.
Je parle juste de ça.
Mais j'ai hâte de l'écouter, pour vrai.
Ça, c'était drôle cet hiver. Là. Il y a juste Mathieu. Moi, j'ai tout écouté quand c'est sorti. Je suis un fan aussi de Marvel. Puis là, c'est Mathieu qui me texte. Ben, voyons donc comment ça que ça s'est passé, ça. J'ai dit, attends le prochain film.
C'est vrai. C'est un long téléroman qui dure tellement de temps. Puis ça amène à un moment, deux mots, tu sais, que t'as tellement hâte d'entendre, mais ça, t'es pas rendu là, j'imagine. Quand t'arrives à ce moment-là, tu fais « Oh my God, c'est 21 films-là que je me suis claqué pour ce moment-là. »
J'ai fini Endgame.
T'as fini Endgame?
Tu penses quand Iron Man claque les
doigts? C'est Avengers Assemble.
Ouais.
C'est à ce moment-là que tu fais comme « Oh my God, c'est le moment que tout le monde attendait. »
Avec la petite toune.
Avengers Assemble. Puis là, tu vois tout le monde attaquer Thanos puis son armée. Puis j'en parle, j'ai la creep. À ce moment-là, je pense 50 fois, puis j'ai toujours la creep. Ce moment-là, extraordinaire, c'est ce qu'on attendait depuis 15 ans.
Moi, je ne l'ai pas vu au cinéma. En plus, j'aurais aimé ça le voir au cinéma, cette scène-là.
Tout le monde, à chaque fois, puis je suis allé au cinéma trois fois, je l'ai vu trois fois, et trois fois, à chaque fois, il disait Avengers Assemble, le monde dans la salle crie.
Ça, puis quand il pogne le marteau de Thor aussi.
Quand il pogne le marteau de Thor. C'est les deux moments que là, il pogne les marteaux de Thor, puis il fait oh, tout le monde est comme ah,
oh shit.
Deux grands moments de cinéma. Il n'y a pas beaucoup de grands moments de cinéma que j'ai vécu, mais ça, Avengers Assemble, c'est du cinéma. Ça.
Ouais, c'est une des affaires qui m'a le plus surpris, la réaction dans une salle, dans un film. À part si c'est une comédie, d'habitude, c'est assez platonique dans une salle.
J'avais toujours eu un genre de jugement négatif sur ces films-là, le super-héros. J'avais écouté les Spider-Man de Tobey Maguire, puis j'ai fait c'est tout la même affaire, c'est un peu cliché, mais là. C'est tellement complet, puis chaque film a son style. Ant-Man, j'ai ri, tu sais, c'est des comédies familiales, dans le fond, Ant-Man. J'ai ri à mourir de rire, c'est super bon.
Ouais.
Les Doctor Strange, c'est fucké, mais j'ai jamais vu de film de ce style-là.
C'est plein de genres. Tu sais, ça reste action, là, mais c'est vraiment plein de genres de films.
Très classique.
Tout différent, puis tous les films se rapportent au personnage principal. Tu sais, le Ant-Man, le personnage est un peu de même, tu sais, il est un peu trashy dans la vie. Fait que, le film est même Deadpool, c'est la même affaire, tu sais.
Il y avait comme dans Ant-Man, entre autres, ce que j'aimais, c'est le petit côté, genre le petit monde des emprunteurs avec les jouets qui deviennent gros. Puis,
c'est vrai que ça ressemble à ça.
Enfant quand j'écoutais ça.
Mais tellement, ça ramène les vieilles émissions qu'elle a le famille dans le temps. Wow!
Puis Ant-Man and the Wasp, ça aussi, c'était super bon. Puis ils viennent d'avoir un autre qui s'en vient. Là, fait que,
oui.
Ouais, puis là, tu sais, Loki, la réalisation de tout ça, c'est merveilleux.
J'ai pas vu Loki encore.
Ah ouais?
WandaVision, c'est du génie, tu sais.
Mais tu vois, j'ai pas encore, une fois, je me suis pas encore inscrit à Disney+. Puis, mais je sais que quand je vais avoir Disney+, ça va être The Mandalorian, puis Loki.
Ouais.
Puis j'ai entendu Falcon and the Winter Soldier, par moi, c'est incroyable.
Bon.
Puis,
moi, j'ai
Wanda, c'est encore meilleur.
WandaVision aussi, qui est super bon.
Ouais, WandaVision, puis Loki à date, là, la réalisation de ça, puis l'univers est vraiment, vraiment intéressant. Juste que Captain Falcon puis Winter Soldier, ce qui arrive, c'est que c'est très beige. C'est très Captain America, genre, c'est super bon. Mais comparativement aux deux autres, qui sont des réalisations éclatées. Là.
Mais les thèmes, c'est avec. Je trouve spoiler rien, là, mais c'est vraiment. C'est quand même. Les sujets abordés sont vraiment le fun. Là, c'est...
Cool. Ouais. Puis, mec, t'achètes One de Disney Plus, mon maudit, t'auras pas besoin d'attendre à toutes les semaines pour les écouter. Puis
non,
les binger.
Parce que je veux les binger. Puis c'est exactement ça aussi, tu sais. Je trouvais ça con un peu que Mandalorian, c'était à chaque semaine.
C'est
t'sais.
Bizarre, hein?
Puis aussi, même chose pour, mettons, Amazon Prime, The Boys.
Ouais.
Je sais pas si vous avez entendu parler de cette série-là.
Ouais. Oui, j'écoute, c'est...
Vraiment très bon. Ouais. C'est extraordinaire, là, The Boys. Puis la deuxième saison a décidé de sortir à toutes les semaines. Puis la première saison était sortie en lot.
Vrai?
Ouais.
Moi, je les ai découverts après la sortie de la deuxième.
OK, c'est ça. Fait que tu les as binge-watchés, c'est ça. Puis je trouvais ça un peu weird. Je pense que les producteurs avaient dit la deuxième saison, on a décidé de laisser une semaine pour laisser le temps au monde de digérer chacun des épisodes.
Je comprends ça,
mais en même temps, je pense que c'est une excuse mauvaise pour dire qu'il n'y avait pas le temps de finir de produire les derniers épisodes, fait qu'ils ont décidé de faire comme de reporter.
Moi, je pense que c'est plus qu'on va garder notre monde.
C'est l'abonnement. C'est arrivé souvent que. Puis mettons même à Game of Thrones, puis certaines séries cultes où ils sortaient semaine après semaine, puis que le monde attendait soit à la fin de la série, ils se prenaient un mois d'abonnement. l'abonnement, il binge-watchait, puis après, mais c'était fini.
Moi, je suis un peu déficit d'attention, puis je suis pas capable de rester plusieurs heures tant que ça devant la TV. Fait que moi, je suis comme, j'écoute mon épisode de Loki, la semaine prochaine, il y en a un qui sort, je suis bien correct avec ça.
OK.
Moi, ça me fait chier l'attente. Ça me fait vraiment chier.
Puis il y a des épisodes, puis je dirais, moi, j'ai écouté beaucoup d'émissions en lot, puis ma blonde, ben, c'est commencé à dire, j'aimerais mieux attendre chacun des épisodes. Je suis comme, non, parce que, tu sais, il y a des séries comme Handmaid's Tale, qu'on écoute, Savante Écarlate, tu vois. C'est extraordinaire, mais c'est super bon, mais c'est comme, moi, je vais les écouter genre un week-end. Je vais écouter l'émission en complet. Marvelous Mrs. Maisel, est-ce que vous avez vu ça? Marvelous Mrs. Maisel.
Non, j'ai entendu parler, ça, c'est...
C'est un dessin animé, dans le fond?
Non, c'est, okay. C'est l'histoire sur les premiers stand-up. C'est ça, les années 50? J'ai oublié son nom, je cherchais les noms, mais...
Oui. Okay. Faut vous écouter ça. Si vous aimez le stand-up, si vous aimez l'humour,
oui.
Ça se passe à New York dans les années 50. C'est l'histoire d'une femme qui écrit du stand-up pour son mari. Et son mari, lui, fait du stand-up, mais ça marche pas bien. Puis sa blonde, sa femme, qui écrit son stand-up, est très drôle naturellement. Juste comme elle a une façon de raconter qui est comique. Mm-hmm. Dans le premier épisode, je vous spoil rien, elle se fait laisser par son mari. Son mari la blâme parce que... dans le fond, il est pas drôle à cause d'elle. Tu sais, ça fait de la niaiserie, tu sais. Elle est saoule. Elle s'en va dans un cabaret à New York. Puis elle s'en va commencer à juste parler contre son mari, tu sais. Et elle est drôle. Et elle torche. Et elle kill.
C'est une mère ordinaire.
C'est une mère ordinaire, mais qui kill. Mais c'est plus... C'est pas mère ordinaire.
Ouais, c'est l'écriture.
Je vais m'en ir à ça, disons. C'est pas mère ordinaire. C'est vraiment très drôle. Et dans le fond, ce que tu commences à comprendre, c'est que tu vas suivre l'histoire d'une femme qui va développer son sens comique, en fait, qui va devenir humoriste à New York dans les années 50, fin 50, début 60. C'est tellement bon. Ouais. C'est tellement bon. C'est écrit, puis c'est drôle, c'est rapide. Si vous avez écouté Gilmore Girls, bon, ça fait un peu, je sais, peut-être girly ou quoi que ce soit, peu importe. Les répliques dans cette série-là, entre le monde, c'est tac, 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 tac. Et c'est comique, là. C'est vraiment punché. Fait que si vous voulez voir une série qui vraiment rend heureux et qui est drôle, c'est Marvelous Mrs. Maisel. Ils sont rendus à leur troisième saison. Ça en va à la quatrième. Et c'est bon, t'es accro, là. C'est vraiment de la drogue.
C'est Netflix, Amazon?
C'est Amazon Prime.
Amazon Prime, OK.
Ouais, Amazon s'est rendu avec une bonne streaming game là, en ce moment.
Pas pire, hein? Pas pire.
Il n'y en avait pas tant que ça.
Ils en ont moins que Netflix. Ils investissent moins que Netflix, ça, ouais. Mais leurs séries sont plus souvent des home runs. Tu sais,
Netflix de il y a 5 ans.
Ouais, exactement. Chez Netflix de il y a 5 ans.
Que ça a sorti, que ça a fait...
Puis Amazon qui va sortir aussi une série sur l'histoire de Lord of the Ring. Pas la table du milieu, mais c'est en tout cas jadis. Fait que c'est aussi un fanbase qui va être
là. Ça va être une grosse série. J'imagine un immense budget, genre Bezos va mettre tout l'argent.
Mais je pense que c'était 1 million par épisode.
C'est ça.
Ouais,
mais ça, 1 million, c'est plus. Ça, c'est commun, ça. Parce que Netflix avait sorti leur grosse série qui était 2,3 millions par épisode.
Ah ouais,
c'était Marco Polo. Qui avait plus ou
ça
moins
floppé,
marché.
Ouais.
Ça avait floppé.
À 2,3 millions, il devait être déçu.
Game of Thrones, excuse-moi, Homeworld, qui était sorti HBO, c'était plus que des épisodes de Game of Thrones. C'était aussi cher ou c'était plus que Game of Thrones?
Il y a beaucoup d'argent. De CGI là-dedans, puis il y a beaucoup de spéciaux. Il y a Anthony Hopkins aussi déjà.
Il y a Anthony Hopkins qui est comme ça, tu donnes 1 million par épisode.
Une chose que je suis triste sur Netflix, c'est Black Mirror, que c'est arrêté parce qu'il y a un différent avec les auteurs. Puis ça, je trouve c'est
pour vrai?
La plus chose. La belle, ils veulent je pense que c'est l'épisode qui s'appelle USS Canister. Je me souviens plus du nom exact, mais là, ils vont le faire. Ils vont sûrement faire une série basée sur ça. Mais c'est ça, les auteurs, ils ont été différents avec Netflix. Puis vu que les droits appartenaient à Netflix, puis les auteurs sont partis dans une autre boîte.
Charlie Brooker, celui qui écrit.
Ouais.
Ah oh, ouais, parce que Charlie Brooker a sorti un special It's the end of 2020 qui est sorti fin de 2020 pour parler un petit peu du coronavirus, une espèce de special,
c'est lui qui a fait ça, le documentaire.
Ce documentaire sur la fin de 2020, puis dans le fond c'est un résumé de l'année au complet. Parce que lui il avait fait initialement une série british que j'adore qui s'appelle The Wipe. Si vous voulez un équivalent ici québécois, c'est un peu comme le spécial Infoman de 2020, le spécial Infoman C'est une version un peu plus cynique, un peu plus dark de ce gars-là qui fait juste une revue de l'actualité Puis c'est ça, en parallèle, il écrivait Black Mirror. Ouais. Ce gars-là, c'est un fou. Là. Il écrit tellement d'affaires incroyables. Il se spécialise dans le domaine des jeux vidéo. C'est un geek. C'est pour ça, justement, Black Mirror, il s'y connaît assez bien pour écrire des épisodes sur des affaires comme le VR ou des affaires de même.
Moi, j'ai capoté en écoutant ça. Ça n'a pas de sens. Des nouveaux problèmes. Là,
c'est... Moi, là, mon épisode le plus dark et le plus incroyable s'appelle Shut Up and Dance. C'est l'épisode de saison 2, je pense, un épisode de saison 2, où est-ce que c'est l'histoire d'un gars qui se fait dire des étapes pour se rendre à quelque part.
Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui.
C'est d'après moi la fin la plus dark parce que, en tout cas, à la fin, tu comprends pourquoi il se fait suivre, il se fait dire ça. Et j'ai adoré cet épisode-là. Fait que, non, je pense que je vais me les claquer au complet, puis je vais en faire un rating. Et je vais le mettre dans mon nouveau podcast de série.
c'est vraiment.
Il y a du stock, en tout cas, ça, c'est sûr.
Solide.
Puis le film qu'ils ont fait, le dernier film.
Bandersnatch.
Bandersnatch, c'est hot. Là, tu j'ai réécoutes, c'est jamais la même affaire. Là, c'est parfait. Puis tu fais des choix. C'est comme un livre dont tu es le héros.
C'est ça, vraiment.
Tu fais des choix, puis ça change tout. Ça change vraiment tout, puis je t'en dirai pas plus. Mais je t'en dirai pas plus parce que ça va même au-delà du film.
Parfait, j'aime ça. J'aime ça.
C'est vraiment pour vrai, c'est hot.
Cool. Sinon, on te suit où, Chuck?
C'est déjà fini.
Ben,
il reste 6 minutes.
Parce que t'as une grosse journée.
Mon Dieu, FHS, oui.
Ça se peut-tu? T'as une grosse fin de semaine?
Ouais, c'est ça. Je fais la réalisation des podcasts je fais le son le soir pour les spectacles du monde. Fait que,
Ouais.
Donc, je vais être au QG et après ça au Poisson Volant pour cette espèce de blitz de podcast / soirée du monde. Je tech de son aussi. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé, dans le fond, de faire le son pour le soir.
Comment ça se passe, ce premier week-end du FHS?
C'est très exigeant, mais je suis extrêmement content. Il n'y a pas de gros fuck majeur, il n'y a pas de problème. Tout a été bien organisé, puis ça, c'est tout grâce à Camille et à son chum Félix qui ont tous les deux coordonné le tout d'une main de maître. Alors, on est arrivé, on était tellement bien accueillis. Moi, je suis tombé en amour avec l'Abitibi. J'ai carrément, grâce à eux, là, en grande partie, parce qu'ils m'ont fait connaître des endroits, tout ça. Et j'ai tellement de fun. Donc, je faisais la réalisation de 3 podcasts par jour. Ouais, pas pire.
On a le temps de venir jaser au nôtre, c'est nice.
Oui, non, écoute, j'apprécie tellement que vous avez pris le temps de m'inviter en plaçant. Merci, j'ai tellement de fun.
On trouve ça important, parce qu'on a parlé un peu de l'évolution du podcast, puis on trouve ça important d'inviter d'autres animateurs de podcast à notre podcast, puis inversement, de se faire inviter si le monde, ça leur tente. Allô? parce que je trouve que c'est comme ça que nos auditoires vont aller vers un puis l'autre.
Ben oui, absolument, faire des crossovers.
Partager des intérêts.
Tout à fait. Alors, c'est super important. Puis dans le fond, tu sais, je veux dire, on est encore en train de travailler sur le Festipod de cette année, mais c'est sûr qu'on aimerait ça vous inviter si on peut. Là, je ne sais pas comment, mais tu sais, vous inviter pour faire le Festipod. Parce que le but du Festipod, c'est. Si je veux plugger les affaires, page Facebook, YouTube, si vous voulez voir en passant le Festipod. Mais on veut démocratiser le podcast, mais surtout aussi le démocratiser d'une manière. Culturellement et avec les minorités et tout le monde. Okay? Donc, c'est pas juste comme nous ici, donc 4 hommes blancs qui parlent.
Ça arrive des fois, mais des fois, on a d'autres invités aussi.
On s'amuse souvent à dire ça. Là, on est 3 hommes blancs, on a des opinions, on a de l'entrée.
Ça s'appelle l'appropriation culturelle.
Exactement. Fait que d'avoir des gens qui viennent de tous les horizons, des femmes, des gens de tous les genres, de toutes les sexualités, de toutes les cultures, c'est extrêmement important. Donc, c'est ça le Festipod. On veut mettre ça de l'avant, puis c'est chapeauté par Fanny Grégoire, qui fait La vie secrète des geekettes, qui est un podcast à Montréal qu'elle tient avec Choc. Et donc, ça, on va faire ça probablement en novembre. On pense à ça, là, cool. Probablement. Fait que ça s'en vient. Puis le petit bonhomme, c'est ça. Oui, je fais le FHE en passant. Je voulais juste terminer en passant du FHE, le Festival d'humour émergent. C'est présentement, on fait ça. C'est un gros festival d'humour avec plein d'humoristes de la relève.
Qui est promu un bel avenir, je pense.
Oui,
c'était ambiance, bon. J'en ai parlé à Camille hier, puis elle est comme, ouais, on s'enligne pour une deuxième.
Surtout que, tu sais, parce qu'on en parlait avec Camille Dallard dans un précédent podcast, mais le milieu de Montréalais est très saturé.
Oui.
Mais là, de partir un festival comme il aurait pu se faire à Montréal, mais ici, ça donne toute une autre perspective. Là,
tout à fait.
Public. Tout un autre accueil.
Il était temps qu'on ait un festival d'humour émergent un ailleurs. Peu punk, comme. Ailleurs. Tu sais, je travaille sur le Minifest, qui est un festival un peu comme ça, dans le fond, des humoristes émergents qui ont des concepts pétés, tu sais.
le show.
C'est cool que ça, en fait, pour le FHL, mettons l'année prochaine, qu'on essaye plus de choses, encore avec toujours des humoristes émergents. Vraiment. Je veux un bel avenir pour ce festival. C'est vraiment bien parti. Sinon, j'ai un podcast quotidien qui s'appelle Le Petit Bonheur du lundi au vendredi. vendredi, je parle avec des invités, des humoristes généralement. On parle de deux sujets par jour et c'est un petit podcast de 20 minutes pour te rendre au travail tranquillement. Ou,
c'est ça, parce qu'en plus, en région, on n'a pas beaucoup de temps de route souvent.
Oui, c'est ça, c'est pas long. Hein? Ça prend tout pas de temps, est à 5 minutes en char.
Ben, c'est
à
peu près. C'est soit c'est long ou soit
voyage.
C'est pas long.
Ouais, c'est ça, voyage d'une ville à l'autre.
C'est 5 minutes ou 1 heure et quart.
Ouais, c'est ça.
C'est pour ça que nous autres, on se tient une heure et quart. Puis ça fait Amos-Rouen.
C'est ça, oui, exactement. Mais ouais.
Il dit comment votre podcast? Bon, Amos-Rouen.
C'est vrai parce que. Il y a Marie-Hélène Nassiemont qui a fait un podcast pour un projet artistique. C'est très. Mais c'est son, son programme, son truc s'appelle 70 km parce que c'est le nombre de kilomètres entre Amos puis Val-d'Or.
Ah.
C'est une aventure artistique sur le chemin d'Amos-Val-d'Or.
C'est cool.
Aller-retour, dans le fond. Fait que,
c'est très
c'est
cool.
C'est très cool comme projet. C'est pour une exposition là, qui vient tout juste d'être lancée. Puis,
ouais, c'est hot. Ouais, c'est hot, c'est hot. Puis sinon, ben, ah oui, mais je suis enseignant à l'École nationale de l'humour. Donc,
inscrivez-vous.
Inscrivez-vous. Les cours, les places en automne vont se débloquer très bientôt. Et sinon, écoute, je fais mille et un podcasts pour plein de gens. J'ai pas vraiment de carte ou de site, mais j'ai un studio que je suis en train de mettre sur pied qui s'appelle Berlingo, qui est un studio, qui est mon studio à Montréal et qui va me permettre de pouvoir recevoir plein de gens pour pouvoir enregistrer du podcast directement de chez moi pour avoir une espèce de formule tout inclus parce que les gens font juste s'asseoir, parler, s'en aller. Puis nous autres, moi, je travaille sur le podcast, je leur envoie. Puis c'est quelque chose de très simple pour les gens. Que moi, je m'occupe de toute la paperasse. Pas la paperasse, mais toutes les
idées. La poutine en arrière.
T'as pas besoin de monter partout les tes affaires.
Non, c'est ça, exactement. J'ai hâte d'avoir deux setups. J'ai hâte d'avoir un setup on the go, où est-ce que je me déplace, puis j'ai hâte d'avoir un setup dans le bureau, dans le studio. Donc,
Et là, tu dis que tu fais ça, tu gagnes ta vie avec ça. Y a-tu un nom d'entreprise? On n'a pas parlé. T'as-tu un nom pour ta boîte de prod?
Malheureusement, non. C'est Charles Thompson-Leduc sur mon LinkedIn. Donc, les gens vont voir un peu ce que j'ai fait depuis les dernières années. Okay. J'ai pas encore de site web en soi.
Okay.
Ça s'en vient. C'est juste que j'ai pas le temps, en fait, de le mettre sur pied parce que je travaille beaucoup.
Ça s'arrête pas.
Je veux dire, je suis en Abitibi, mais je mets encore en ligne, en parallèle. J'essaie d'avoir du bon Wi-Fi, en fait, surtout du bon Internet pour uploader des épisodes pendant que je suis en Abitibi. Fait que ça roule. Moi, j'arrête pas.
Ça, c'est un défi constant, ça, YouTube. Ouais, puis télécharger des
épisodes. Pour être constant, mais pour les clients, pour qu'ils aient leur podcast à toutes les journées qu'on s'est données. Donc, c'est du travail. Mais je suis extrêmement content. C'est la job de rêve. Je veux pas faire rien d'autre dans ma vie. Puis je touche du bois là, vraiment pour que ça continue le plus vite, le plus longtemps possible et le plus loin possible. Là. Donc oui.
Parfait.
Merci, les gars. Merci beaucoup.
D'avoir pris ce temps-là, cette fin
de
semaine.
C'est tellement cool, là, pour vrai, là, d'avoir pris de m'avoir invité comme ça. Je suis qu'un technicien qui a une passion. C'est juste ça.
C'est le bout aussi qu'on veut en apprendre pas mal. Fait que tu nous as confortés aussi.
Merci. Mais je vois que je vous souhaite tellement le meilleur avenir pour votre podcast. Je vous souhaite là, que vous alliez à Montréal, que vous venez à Montréal, puis que devant public, on enregistre un gros podcast d'appropriation culturelle. Vous puissiez inviter des invités que vous voulez avoir. Puis
on a eu Michel Barrette, on a eu Guy Jodoin.
C'est pas rien, là.
On sait pas c'est quoi l'autre étape.
Y a-tu des invités ultimes? C'est qui votre invité ultime?
On avait souvent dit Elon Musk.
Ça, c'est hot.
J'ai écrit sur Instagram, j'ai jamais eu de retour. Au moins, on l'a fait l'effort.
Pour la BTB aussi, moi, dans ma tête, Richard Desjardins, c'est comme un mot. C'est pour la BTB, incroyable. Mais bon, ça arrive.
Je souhaite
arrive,
Richard.
C'est sûr que nous autres, on est des gros fans aussi dans une galaxie près de chez vous. Fait que tu sais, Stéphane Crête, Claude Legault.
Réal Bossé.
Réal Bossé, Paul Amarani.
Les improvisateurs.
Ça, c'est sûr que, mettons, avant le film, on va la tournée de promotion. Là, si vous êtes capable d'en avoir une couple de comédiens. Là,
qu'on a déjà eu deux, là, c'est que ça va peut-être ça, aider.
Oui, non, mais c'est ça. Vous pouvez déjà dire, comme écoutez, Guy est déjà venu, puis tout. Mais d'en avoir une couple pour la sortie du troisième dans une galaxie.
Fou, hein?
Ça serait hot.
On a fait un quiz d'ailleurs cet hiver pendant le confinement sur Dans une galaxie près de chez vous, puis il y avait plein de monde, plein de fans des doggies.
Des doggies?
C'est hot,
cool. Yeah!
Mais puis, depuis ce temps-là, depuis qu'on a eu Guy, il appelle Ben une fois ou six mois pour des nouvelles. Est-ce que j'ai pas retourné mes courriels, là, mais en tout cas, on s'en parle bientôt.
Wow!
Hey, merci Chuck!
Merci à vous!
Merci Chuck! Bon fin de FHE, puis on se revoit sûrement très bientôt dans un festipod ou autre chose.
Merci les gars, vous êtes très hot.
Merci.
Si vous avez aimé le podcast, s'il vous plaît, commentez et partagez.
Vous pouvez nous donner aussi des étoiles ou des notes sur toutes les plateformes de balado de diffusion. Des commentaires, c'est vraiment intéressant. Ça va juste faire en sorte qu'on soit plus visible sur les plateformes de diffusion.
Merci beaucoup.
Merci.